Bonjour tout le monde. C'est avec des sentiments très mélangés que je suis là aujourd'hui avec vous. La joie d'une part, merci pour votre accueil si chaleureux, je me réjouis d'être avec vous ce matin. Mais d'autre part aussi, cette souffrance que je partage avec vous, parce que je sais que ce n'est pas moi qui devrais être ici ce matin. On est beaucoup en prière pour vous. On fait confiance au Seigneur et nous savons que ses promesses ne passeront jamais et que lui a toujours un chemin qui est tracé pour nous, même quand nous ne le voyons pas. Nous avons toujours besoin d'apprendre à marcher pas à pas avec lui. Mon but, c'est de vous apporter un peu de réconfort, si le Seigneur le permet, et de l'encouragement à entrer dans la perspective de Dieu. Pour recevoir une juste vision des choses, non pas cette vision humaine qui nous rattrape souvent, mais la vision de Dieu, en étant éclairé par lui. Alors j'aimerais vous lire quelques versets, des versets que je connais depuis longtemps, puis vous aussi peut-être, mais quelle belle expérience quand on lit la parole et qu'il y a des nouvelles lumières qui se font, des nouvelles révélations. C'est juste extraordinaire. Ce n'est pas comme le journal. Hein? On le met de côté, on n'a plus envie de le lire le lendemain. Mais la parole, c'est différent. On n'a pas encore épuisé toutes les richesses qui sont contenues dans la parole. Et je peux que vous encourager à la sonder, à la méditer, à ce qu'elle puisse s'inscrire dans vos cœurs. Je lis dans 1 Jean 3. J'ai distribué quelques billets, on lira quelques versets encore qui appuient le message. Premier épître de Jean, chapitre 3, je vais lire les deux premiers versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce premier mot du verset m'a beaucoup parlé. Voyez. Si on prend le plan physique, la vue, c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Vous vous êtes levé ce matin, vous avez ouvert les yeux et vous voyez. On n'y pense pas. Si on veut réaliser un peu mieux le miracle que c'est la vue, ben lisez le livre de Werner Gitt, Les merveilles du corps humain. C'est juste époustouflant comme il nous décrit les fonctions du corps humain, en particulier l'œil aussi. Avec ces millions de cellules récepteurs de lumière qui ont la capacité de transformer cette lumière en mini-courants électriques au travers du nerf optique pour atteindre notre cerveau et nous permettre de voir. Le photovoltaïque, il existait bien avant qu'on fasse nos panneaux là sur les toits. Dieu est un créateur merveilleux. Mais on emploie aussi le mot « voir » dans des sens autres, dans le sens abstrait. Par exemple, on a besoin de voir une importance, voir une nécessité, ou voir un besoin. Quand j'étais à l'école, je ne voyais pas l'importance d'étudier. Je crois bien que je n'étais pas le seul. J'ai vu ça plus tard. Notre neveu, il ne voyait pas la nécessité de retirer les clés de sa voiture quand il les parquait devant chez nous. Il la laissait ouverte avec les clés dessus, malgré les avertissements de son papa. Mais un matin, elle avait disparu. Alors maintenant, il la ferme. Et je me souviens du temps où nos garçons ne voyaient pas la nécessité de se laver avant d'aller à l'école. Je ne suis pas sale, j'étais seulement au lit, etc., etc. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Ça s'est inversé et plus tard, on devait regarder comment est-ce qu'on arrive à se croiser pour aller tous à la salle de bain. Mais il y a des situations dans nos vies qu'on ne voit pas. Et je crois, dans certains stades de vie, il y a des choses qu'on ne voit simplement pas, même si on nous l'explique en long, en large. On a besoin de la révélation de Dieu. Et spirituellement, est-ce que ce n'est pas pareil aussi? On a besoin que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous révèle sa parole. Alors l'apôtre Jean, il parle ici à des croyants. Voyez quel amour! Et pourquoi est-ce qu'il leur dit « voyez quel amour » Parce que, très certainement, dans cette église, il y a des personnes qui ne le voyaient pas. Ou il me semble encore plus grave quand on ne le voit plus. On l'a vu un moment, et après peut-être on s'est arrêté. Voyez quel amour! On pourrait prendre des autres mots peut-être. Considérez l'amour de Dieu. Ou bien ouvrez les yeux sur l'amour de Dieu. Ou bien comprenez l'amour de Dieu. Prenez conscience de l'amour de Dieu. Alors pour voir, on le sait, il faut une bonne vue. Mais il faut aussi de la lumière. Si c'est les ténèbres complets, vous avez beau avoir une bonne vue, vous ne voyez rien du tout. Alors le Seigneur Jésus nous a dit une parole pertinente à ce sujet dans Matthieu 6, les versets 22 et 23, qu'on va juste entendre par quelqu'un. Là, qui c'est qui a Matthieu 6, 22, 23? Très bien, nous le comprenons tous, n'est-ce pas? L'œil est la lampe de ton corps. Et si ton œil n'est pas en bon état, tu ne sais plus où te diriger. Tu as besoin d'aide, tu as besoin que quelqu'un te conduise. Mais cet œil, il nous est donné. Maintenant, sur le plan spirituel, l'apôtre Paul avait pour les Éphésiens un sujet de prière bien particulier qu'il exprime dans Éphésiens 1, verset 18. Magnifique, merci beaucoup. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Alors, merci Seigneur pour les yeux physiques, mais les yeux du cœur. Quel magnifique sujet de prière. Si vous ne savez pas pourquoi prier la prochaine réunion de prière, alors vous avez déjà un magnifique sujet. Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Pour qu'on puisse voir ce qu'on a besoin de voir, comprendre ce qu'on a besoin de comprendre, dans notre humanité, dans notre raison qui est parfois si limitée. On a besoin de l'aide, de la révélation de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alors maintenant, si nous on devait continuer le verset, qu'est-ce qu'on écrirait? Et j'imagine dans notre tendance humaine, eh bien, on écrirait peut-être « Voyez que l'amour, le Seigneur m'a témoigné. Je suis en bonne santé. Merci Seigneur. Voyez que l'amour, le Seigneur nous a témoigné parce que j'ai réussi mes examens. Magnifique. Voyez que l'amour, le Seigneur m'a témoigné parce qu'on a pu acheter une belle maison, parce que j'ai pu changer ma voiture, parce que je suis dans la prospérité. » On est effectivement dans la prospérité. Alors toutes ces choses, c'est des dons particuliers du Seigneur. Et que le Seigneur nous aide à être reconnaissants. On l'a entendu dans la prière dans notre pays, tous les bienfaits que nous avons. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne le voient plus. On a tellement facilement tendance à voir ce qu'on n'a plus au lieu de voir ce qu'on a. Alors pour ça, on a besoin de cette lumière du Seigneur. qui nous aide à voir tout ce qu'il nous donne et ce qu'il veut encore nous donner. Mais quand les choses sont différentes, quand peut-être la santé s'en va, quand des événements imprévus arrivent, comme ce que vous avez vécu, quand la détresse nous touche, là, on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur, parce qu'on a tendance peut-être à ne plus voir l'amour. D'où est-ce qu'il vient, ce principe de lier l'amour de Dieu avec la prospérité de notre vie ici-bas? Prenons des exemples dans la Bible. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas eu une vie facile. Quand il était en prison, le dos meurtri, seulement parce qu'il avait annoncé l'Évangile, avec Silas, il croupissait. On se rend compte comment les prisons étaient à l'époque. Oh non, il n'y avait pas de télé et puis de promenade et je ne sais pas tout quoi. L'apôtre Paul qui est là. On a un chapitre dans Hébreux 11 qui nous parle de personnes, certains disent des héros de la foi, j'aime pas trop ce terme, je préfère dire c'est des modèles de foi, des personnes qui ont une grande foi et qui sont des exemples pour nous. Alors ils sont décrits en deux catégories. Certains, ils ont vécu des exploits extraordinaires. Ils ont mis en déroute des armées étrangères. Ils ont fermé la gueule du lion. Ils ont éteint la puissance du feu. Certains ont vécu la résurrection de personnes qui étaient décédées. Dieu les aimait. Vous êtes d'accord? Ensuite, il y a l'autre catégorie. D'autres furent persécutés, torturés, lapidés, sciés. Lesquels est-ce que Dieu aimait le plus maintenant? Ceux qui vivaient la prospérité ou bien ceux qui vivaient des choses tellement difficiles comme nos frères et sœurs dans ces pays où Porte Ouverte nous rappelle, nous redonne des informations régulièrement de ce qu'ils vivent, des situations atroces. Dieu a le même amour pour les deux. Il y a des choses qu'on n'explique pas sur la terre. Et je crois que nous allons tous quitter cette terre avec des points d'interrogation sans réponse. Et en fait, il faut que ce soit comme ça. Parce qu'autrement, on serait à la place de Dieu. Mais Dieu nous exprime son infinie supériorité par le fait qu'il connaît tous les mystères. Lui a la vision depuis en haut. Nos fils nous ont récemment fait un cadeau, puis nous ont offert un vol avec un petit avion. Alors on est parti de Grange, allé sur les Alpes, on est venu ici par la région des Trois Lacs, survoler les lieux ici, notre village de Champeau. C'était intéressant. Ce qui m'a parlé, c'est comme ça change quand on voit les choses depuis le haut ou quand on les regarde depuis le bas. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça doit être pour Dieu de voir les choses, nos situations de vie depuis le haut, alors que nous les voyons seulement depuis le bas. Qu'il nous aide à lui remettre toutes choses, et même les choses que nous ne pourrons pas expliquer, de savoir que Dieu a son plan, et de croire simplement que son plan est le meilleur pour nous. Dans les premières choses, dans tous ces exploits, dans toute cette prospérité qu'on peut avoir sur terre, et finalement que je souhaite à chacun, on est toujours dans le registre des choses terrestres et passagères. Alors que dans l'autre situation, on a besoin de comprendre les choses célestes et ce qui ne passe pas. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, et Jean, il ne mentionne pas la prospérité, mais il dit pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être enfant? Moi, je n'ai pas fait grand-chose, en tout cas. Il faut naître. Il faut naître. Et si on est, on a un père et une mère. C'est toujours encore comme ça aujourd'hui. Alors, spirituellement parlant, c'est pareil. L'apôtre Pierre nous rappelle qu'il nous a que Dieu, au travers de la résurrection de Jésus-Christ, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Quelle grâce! Au verset 29, juste avant ce passage que j'ai lu, l'apôtre Jean parle aussi de celui qui est né de Dieu. Né de Dieu, c'est ce passage d'un royaume à l'autre. Alors l'apôtre Jean, il est tout à fait clair par rapport à cela. Il nous dit, il y a deux pères, il y a deux familles et il y a deux sortes d'enfants. Il y a une puissance des ténèbres avec Satan qui est le père. Il y a Dieu dans sa toute puissance. Il y en a besoin de passer d'un royaume dans l'autre. Par la conversion, par un abandon de notre vie au Seigneur, en passant par la case repentance, en demandant pardon au Seigneur et en croyant tout simplement au sacrifice de Jésus à la croix qui est suffisant pour nous. Mon mot de passe sur un ordi, je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est une référence biblique que j'aime beaucoup. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le miracle de la nouvelle naissance, quelle grâce! Le miracle de passer d'un royaume dans un autre, quel privilège extraordinaire! Alors si je suis un enfant de Dieu le Père, vous rendez compte ce privilège? Alors, il y a des enfants sur terre qui pourraient être très fiers de parler de leur père qui a peut-être une position très élevée dans la société. Mais nous, nous avons le privilège, si nous avons reçu Christ dans notre vie, d'être appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est là que l'amour de Dieu s'exprime. Dans le fait que nous pouvons avoir le privilège extraordinaire d'être ses enfants. Et si nous sommes ses enfants, nous avons un Père qui est infiniment riche, alors, est-ce que moi je serai pauvre? Si mon Père est si riche, est-ce que je dois marcher la tête baissée et me plaindre en étant un pauvre pécheur toujours? J'ai un Père qui est infiniment riche. J'ai un Père qui est infiniment puissant. Est-ce que j'ai des raisons de me faire du souci? Alors, je sais, les soucis viennent sans qu'on les commande. La nuit, quand vous avez un moment d'insomnie, ça vous arrive. Les soucis qui viennent. Alors, Dieu nous explique comment il faut rejeter ces soucis. On n'en peut rien s'ils arrivent dans notre cœur, mais on sait, on n'a aucune raison de se faire du souci. Si Dieu est notre Père et qu'il est le Tout-Puissant, on a toutes les raisons de lui faire confiance et de poursuivre notre route dans la quiétude. Et si nous avons un Père qui est éternel et qui ne meurt pas au bout de quelques années, et que nous sommes ses enfants, nous avons nous aussi l'espérance vivante de la gloire éternelle. On a besoin de la lumière de Dieu, on a besoin de cet éclairage pour comprendre la vision de l'éternité, pour saisir que finalement notre passage sur la terre, c'est juste un tout petit bout. Mais l'essentiel, ça se passera de l'autre côté. Ça se passera dans la gloire éternelle. Et nous le sommes, nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous le voyons ce matin? Ou bien est-ce qu'on ne le verrait plus? Cherchons la face du Seigneur si on ne le voit plus. Est-ce que je peux ce matin m'émerveiller du privilège qui est le mien d'être appelé enfant de Dieu? Est-ce que je peux m'incliner devant Dieu en adoration? Seigneur, je n'ai pas mérité cela. J'étais loin de toi. J'ai brisé ton cœur dans mon péché. Mais toi, dans ta grâce et dans ton amour, tu m'as rattrapé. Ce n'est pas en vain que Jésus est venu souffrir et mourir sur la croix. C'est pour que je puisse changer de royaume et changer de maître, passer des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent parfois nous voiler l'amour de Dieu. J'en citerai trois, les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie peuvent nous voiler l'amour de Dieu. Dans la détresse, on se pose peut-être la question, est-ce que Dieu vraiment entend mes prières? Ou est-ce qu'elles s'arrêtent au plafond? Un frère de notre église me disait il n'y a pas longtemps, « Mais tu sais, avec tout ce qui m'arrive, parfois je me demande si Dieu m'aime encore. » Des doutes qui peuvent nous assaillir comme ça. Et je l'ai encouragé. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole? Est-ce que je veux écouter mon sentiment? Ou est-ce que je veux m'appuyer sur la promesse de Dieu? Cette parole qui ne passera pas. L'attachement aux choses terrestres peut nous voiler l'amour de Dieu. Quand finalement on est tellement accroché à ces choses qu'il faut laisser de toute manière. Vous connaissez peut-être cette parole de Jim Elliot. Il n'est pas insensé celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Mais pour ça, il faut aussi la vision d'en haut, la vision céleste, la vision de l'éternité. Alors, comment est-ce que mon histoire de vie s'écrit sur la page 2026? Un enfant de Dieu a commencé l'année 2026. Son vrai sujet de joie, c'est d'appartenir au Seigneur. Et cette joie peut aller en grandissant chaque jour. Frères et sœurs, si notre quotidien est toujours empreint de cette magnifique réalité, indépendamment de nos circonstances de vie, et je le dis avec beaucoup de respect, notre vie, elle est réussie. Réussite selon Dieu n'est pas celle que le monde nous propose. Bien-aimés, nous sommes... Non, si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et là, ça ne doit pas forcément nous surprendre. L'opposition, ça peut parfois nous ébranler, n'est-ce pas? Mais est-ce que Jésus a été approuvé de tout le monde? Est-ce que Jésus s'est laissé entraîner comme une girouette selon le courant de la société, de la pensée? Frères et sœurs, nous avons une mission importante, c'est d'apporter le message, la parole de Dieu et de l'Évangile. Et je suis persuadé que notre société d'aujourd'hui, que la jeune génération du 21e siècle, elle a besoin du message de l'Évangile, peut-être plus que jamais. Je me suis beaucoup réjoui de lire une nouvelle que les ventes de Bibles en France ont énormément augmenté et qu'il y a une jeune génération qui a soif de valeurs sûres. Je crois que dans les temps troublés que nous vivons, Dieu peut susciter ce réveil. et atteindre une nouvelle génération qui se lèvera et qui apportera un message d'espérance, le message de l'Évangile, qui peut transformer nos vies et nous donner une glorieuse perspective. Et vous rendez compte, c'est pas fini. L'apôtre Jean y continue. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Il y a encore quelque chose de plus beau qui nous attend que tout ce qu'on a vécu jusqu'ici. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Oui, c'est fort ça. Semblable à lui, rendez-vous compte. L'œuvre du Seigneur dans nos vies, dans ces trois états. Le premier, j'étais pécheur, perdu, loin de Dieu, ennemi de Dieu par mes pensées, mes mauvaises actions. Maintenant, Christ vient me saisir. Il fait de moi son enfant. Je suis enfant de Dieu. Et un jour, quand Christ apparaîtra, on sera semblable à lui, parce qu'on le verra tel qu'il est. Rendez-vous compte ce moment où on entrera dans la gloire et dans la félicité. On ne sera pas Christ, mais tu peux mettre ton prénom semblable à lui. Salvador, semblable à Jésus. Quelle grâce! Le Seigneur a vu son cœur, il a vu toute chose. Mais tout ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu dans notre vie, et ce n'est pas notre mérite. Voyez, comprenez, saisissez cette œuvre si merveilleuse. Si je le vois, si je le saisis, il y a des effets. Par exemple, on lit 1 Jean 4, 19. Qui c'est qui avait reçu ce verset-là?
Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'on aime Dieu? C'est parce qu'il nous a aimés le premier. Qu'est-ce qui suscite plus l'amour que quand quelqu'un nous aime? Quand quelqu'un nous dit qu'il nous aime, en tout cas quand j'étais jeune, ça me donnait des papillons dans le ventre. Dieu nous affirme qu'il nous aime. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alors j'ai lu une pensée dans une méditation qui m'a touché, quelqu'un qui disait, mais voilà, on encourage beaucoup le peuple de Dieu à aimer Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer Dieu? Il faut se lever à quelle heure le matin? Alors il écrivait, laissez-vous aimer par Dieu. Plus vous vous laissez aimer par Dieu, plus votre amour pour lui grandira. Et j'ai bien aimé cette pensée. Si je vois l'amour de Dieu, si je le saisis, si je le comprends, ça suscitera mon amour pour lui. Combien est-ce qu'on l'aime? Il y avait une église au 1er siècle qui était l'église de Laodicée, qui courait un peu le même danger que l'église du 21e siècle, c'est que l'amour se refroidissait. Alors eux, ils étaient dans une situation, je suis riche, je suis enrichi, j'ai besoin de rien. Vous pensez qu'il y avait combien de personnes aux réunions de prière à Laodicée? Ils étaient riches, ils avaient besoin de rien. Ils n'avaient pas de sujet de prière non plus, je pense. Ou bien. Et ils ne voyaient plus leur état tel qu'il était devant Dieu. Alors le Seigneur leur conseille d'acheter de l'or pur, de revêtir un vêtement blanc et d'appliquer un remède sur tes yeux afin que tu vois. Et ce remède, il se trouve dans la pharmacie de Dieu. Encore un autre effet collatéral, 1 Jean 4, 11. C'est dans la première épître de Jean, 1 Jean 4, 11. Oui, oui, s'il te plaît. Merci beaucoup. Si Dieu nous a ainsi aimés, ce n'est pas une option. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est mon devoir devant Dieu. Est-ce que nous nous aimons entre frères et sœurs? À quel point est-ce que nous nous aimons? Il y a des personnes, c'est facile de les aimer. Puis pour d'autres, il faut peut-être faire un effort. Mais Jésus l'a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, vous ne faites rien de spécial. Les incroyants, ils en font tout autant. Mais si vous aimez ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent, ça sera un témoignage qui est fort aux yeux du monde. Et tout d'abord, ça se passe dans l'Église. Est-ce que mon frère, est-ce que ma sœur sait que je l'aime? Est-ce que je sais comment lui exprimer aussi mon amour de la bonne manière? Tout ça, c'est l'effet de cet amour qui est déversé dans notre cœur. Que le Seigneur nous accorde de comprendre, de voir tout à nouveau l'œuvre de la grâce dans notre vie et que nous puissions de tout notre cœur l'aimer, le suivre, le servir et l'adorer. Comme ce chant que j'aime beaucoup de Jude 25 l'exprime, l'aimer toujours plus fort, jusqu'à mon dernier soupir, l'aimer encore, c'est sûr, il va venir. Je ne sais pas si on pourrait le chanter, mais je comprends qu'on n'est pas préparé. Mais que ce chant puisse aussi résonner dans vos cœurs et que le Seigneur vous bénisse richement, vous soutienne, vous fortifie. On est avec vous en prière.